Certains d'entre vous avez eu des enfants, et d'autres peut-être pas encore, mais vous avez certainement connu quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille peut-être, qui a eu un enfant ou plusieurs, ou bien peut-être que vous étiez déjà assez grand pour vous souvenir de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et la question que je vous pose ce soir, c'est comment avez-vous vécu cette occasion, la naissance de ce bébé? Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là, si vous avez eu vous-même des enfants ou si vous avez connu quelqu'un qui a eu un petit bébé. Personnellement, j'ai assisté à la naissance de tous mes enfants, des quatre, et je peux vous dire que ces occasions, pour moi, ont été des moments d'une intense émotion. En fait, à chaque accouchement, je vous avouerai que j'ai pleuré. Mais je me souviens aussi de la réaction de nos proches, de nos familles, quand on a annoncé d'abord la grossesse, c'était déjà un moment émouvant, et puis ensuite, 8 ou 9 mois plus tard, l'heureux événement, la naissance du bébé. Et à chaque fois, ça a été une effusion de félicitations, d'exclamations de toutes sortes, de sourires irrépressibles, parfois de quelques larmes, et puis bien souvent de cadeaux. La naissance d'un enfant, c'est évidemment ce qu'on appelle un heureux événement. Et avec raison, c'est un heureux événement. Mais est-ce que vous avez déjà été ému, ému, je dis bien, par la naissance de cet autre bébé s'appelle Jésus? Je pense qu'on a tous l'habitude de fêter Noël tous les ans, en tout cas si on vit dans un pays de l'Occident, on a l'habitude de fêter Noël tous les ans. Mais franchement, l'émotion qu'on est susceptible de ressentir à Noël de nos jours provient plus facilement des cadeaux qu'on reçoit, ou peut-être des cadeaux qu'on n'a pas reçus, qu'on espérait recevoir. Dans ce cas, c'est des émotions, ce sont des émotions contraires. Ça vient plus facilement de ça que du fait de méditer, n'est-ce pas, au sens originel de cette fête qui, en fait, symboliquement, commémore la naissance de Jésus. J'ai l'impression que nous savons, vous et moi, y compris, que Noël est la commémoration de la naissance de Jésus, mais en même temps, j'ai l'impression que cette naissance de Jésus est quelque chose qui est devenu assez éloigné pour nous. Pas forcément parce que elle a eu lieu il y a probablement plus de 2000 ans, mais peut-être parce qu'on a laissé d'autres choses prendre le pas à Noël sur la personne et les événements qui, théoriquement, sont au centre de cette fête que nous appelons Noël. Franchement, est-ce que Noël ne nous laisse pas un peu indifférents quand on compare cette fête à la naissance du petit dernier de la famille, du petit neveu, du petit cousin qui nous fait verser notre petite larme? Est-ce que, franchement, on n'est pas moins ému par Noël que par la naissance d'un nouveau membre de la famille? On va lire un texte dans la Bible, c'est un texte très connu, c'est le récit que Luc, l'évangéliste, nous fait de la naissance de Jésus, mais aussi des circonstances qui ont entouré cette naissance. Et il nous raconte cette histoire, vous allez voir, dans le but tout simple de nous faire mesurer combien la naissance de Jésus est un heureux événement au sens le plus fort du terme. C'est un heureux événement au sens le plus fort du terme. Et comme lors de tout heureux événement, Luc, qui est l'auteur de cette histoire, veut que nous soyons touchés, ému, et par conséquent que nous soyons encore plus reconnaissants pour la venue de Jésus et encore plus attachés à lui. D'accord? Vous êtes prêts? On va lire ce texte. Il s'agit de l'Évangile selon Luc, chapitre 2. Et on va lire les versets 1 à 20. Vous allez voir, c'est peut-être un texte que vous connaissez par cœur, à force de l'entendre, surtout pendant la période de Noël. Mais c'est ce texte qu'on va méditer ensemble. Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Nous nous inclinons devant toi, Père Céleste, pour te demander ton aide maintenant au moment d'étudier ta parole. Nous reconnaissons que ces textes ont été inspirés par toi. Ils sont sans erreur, infaillibles. Seigneur, veuille les utiliser maintenant pour nous édifier, pour nous instruire, pour nous aider à mieux te connaître et à mieux te servir. Amen. La naissance de Jésus est un heureux événement au sens le plus fort du terme. Et la première chose que Luc fait ici dans ce récit, c'est qu'il veut nous toucher au travers du récit de la naissance de Jésus en nous montrant par quel moyen providentiel Jésus est né à Bethléem conformément à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes qui ont précédé Jésus. Et donc au verset 1 à 6, comme vous l'avez dans le bulletin, il nous raconte un formidable concours de circonstances. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces 6 premiers versets ? On apprend que César Auguste, qui est le fils adoptif et le successeur de Jules César, on apprend que César Auguste ordonne le recensement de tous les habitants dans son empire. Chacun doit donc retourner à sa ville d'origine pour se faire inscrire, si vous voulez, à la mairie de l'époque, quoi, dans la ville d'où on vient. Et Joseph et Marie donc se rendent à Bethléem parce que Joseph, il est de la lignée du roi David, et Bethléem, c'est la ville d'origine de David, et donc les registres d'état civil qui concernent les descendants de David, y compris Joseph et sa fiancée, se trouvent là-bas, c'est donc là-bas qu'ils doivent aller s'inscrire. Et il se trouve que c'est exactement en même temps qu'ils sont là-bas, pendant leur séjour à Bethléem, que la grossesse de Marie arrive à son terme. Ce qui fait que son bébé, contre toute attente, est né à Bethléem. C'est un accouchement surprise, si vous voulez. Si Marie avait pu en décider autrement, elle en aurait décidé autrement. Elle serait certainement restée plus près de sa famille, à Nazareth, etc. Mais pour bien comprendre la portée de ces premiers versets du chapitre 2, il faut bien comprendre ce qui s'est passé au chapitre 1. De cet évangile. Un chapitre qui est d'ailleurs plutôt long, puisqu'il fait 80 versets. Et dans ce chapitre, Luc nous a bien fait comprendre que l'enfant que Marie porte en son sein, c'est le Messie. Voilà. Si vous voulez que je vous résume le chapitre 1 de l'évangile selon Luc, c'est que le bébé qui est dans le ventre de Marie est le Messie. Les expressions que Luc emploie d'ailleurs tout au long de ce premier chapitre sont les suivantes pour désigner Jésus. Fils du Très-Haut, héritier du trône de David, saint enfant, Fils de Dieu, Seigneur et Soleil levant. Donc on a compris quoi. Au bout de 80 versets, ok, l'enfant qui est en train de grandir dans l'utérus de Marie, c'est le Messie. Ok. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Comment peut-il être le Messie s'il naît dans une famille qui habite à Nazareth ? alors que l'Ancien Testament dit que le Messie doit venir de Bethléem, qui est à 120 km à peu près de Nazareth. Il y a un problème, comment est-ce que c'est possible? Et là, début du chapitre 2, en l'espace de 6 versets, le problème est résolu. C'est comme quand on regarde un film et que pendant 1h15, l'intrigue se développe, le suspense augmente, la tension atteint son comble, le spectateur est rivé à son siège à se demander « Mais comment donc cette situation va-t-elle se résoudre finalement ?» Et paf, la scène du dénouement arrive. En l'espace de quelques minutes, un événement totalement inattendu est introduit dans l'histoire et on comprend tout. Mais oui, c'est bien sûr. Comme dans le sixième sens. Mais oui, c'est bien sûr. Ça y est, on comprend tout ce qui s'est passé. Et une résolution. Merci le réalisateur. Et bien, c'est ce qui se passe dans le texte ici. Merci Luc. Mais merci Dieu, Tout-Puissant, par sa providence, qui a fait en sorte que Jésus naisse bien à Bethléem. Personne ne s'y attendait, mais c'est arrivé. Dieu a fait en sorte que les autorités païennes, romaines, ordonnent un recensement qui va provoquer précisément le voyage de Marie et Joseph à Bethléem, exactement au moment où sa grossesse atteint son terme. Le lieu de la naissance du Messie, c'était donc le dernier élément, le dernier détail qui manquait pour que l'on puisse avoir la confirmation absolue que Jésus est bien le Messie. Et donc, vous voyez, ces 6 versets, ces 6 premiers versets du chapitre 2, ils offrent la résolution du premier chapitre. Mais dans le premier chapitre de Luc, en fait, c'est toute l'attente millénaire de l'Ancien Testament qui est résumée. L'attente concernant la venue du Messie. Une attente qu'on découvre tout au long des pages de l'Ancien Testament, depuis les premiers chapitres de la Genèse, où Dieu fait cette promesse fondamentale. Il dit qu'un jour, la descendance viendra pour écraser la tête du serpent. C'est une référence au serpent qui était dans le jardin d'Éden et qui représente le diable. Et depuis donc, vous voyez, depuis le tout premier chapitre de la Genèse, on est là, placé dans cette attente de la venue de la descendance promise du Messie, celui qui sera présenté un peu plus tard comme le fils de David, le roi, celui qui va paître son peuple, celui qui va régner éternellement. Quand est-ce qu'il va venir finalement? Et puis le premier chapitre de Luc nous résume tout ça, en employant ces termes solennels, élogieux concernant le bébé dans le ventre de Marie. Oui, c'est bien lui, mais comment est-ce que ça peut être lui s'il n'est pas à Bethléem? Eh bien, tiens, en 6 versets, il est né à Bethléem. Et donc ce verset 6, chapitre 2, est d'une solennité incroyable. D'une solennité incroyable. Pourtant, il est tout simple. Mais voici ce qu'il dit. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. C'est la résolution de toute l'attente millénaire de l'Ancien Testament. Le temps où elle devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. C'est censé nous donner des frissons à ce moment-là. Vous voyez que Luc veut nous faire mesurer combien la naissance de Jésus est un heureux événement dans au sens le plus fort du terme, dans un premier temps en nous montrant par quels moyens providentiels Jésus est bel et bien né à Bethléem, conformément à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Mais deuxièmement, Luc veut nous toucher au travers du récit de la naissance de Jésus en nous montrant cette fois dans quelles conditions d'humiliation le Seigneur et Sauveur s'est approché des hommes. Dans quelles conditions d'humiliation le Seigneur et Sauveur s'est approché des hommes. Et donc, au verset 7 à 14, il nous décrit un formidable contraste de situation. On a compris donc qu'il s'agissait du Messie. Merci Luc, il s'agit du Messie, on a compris. Mais quel choc ! Verset 7. Il est enroulé dans un linge et déposé dans une mangeoire pour animaux parce qu'il n'y a pas de place pour lui ailleurs. Vous voyez le choc? Et ensuite, pour souligner encore plus ce contraste qu'il y a entre l'importance inouïe de cet événement, le Messie vient de naître, et de l'autre côté, les conditions incroyablement misérables qui entourent cet événement, pour souligner encore plus ce contraste, eh bien Luc, l'auteur, nous raconte l'intervention d'un ange, suivi ensuite d'une multitude d'anges auprès d'un groupe de bergers. C'est une rencontre que l'on connaît bien, ça fait partie du folklore, si j'ose dire, de Noël, de nos jours. Il y a toujours les bergers et un ou plusieurs anges dans la crèche, avec il y a toujours des santons qui les représentent, tout ça, on s'est habitué à cela, mais c'est un événement énorme ce qui se passe là. L'ange qui apparaît au berger, c'est pas un petit Cupidon qui joue de la harpe. C'est un monstre effrayant. Ils ont terrifié ces pauvres bergers. Et il est tout seul au début, l'ange. Et il fait cette annonce solennelle, verset 8, 8 à 11, ou plutôt 10 et 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et pendant qu'il dit ça, les bergers sont tremblants, tout tremblants de peur. Mais en disant cela, qu'est-ce qu'il dit juste après l'ange, verset 12 ? Et ceci sera pour vous un signe. Autrement dit, c'est à ceci que vous allez le reconnaître, celui-là, le Christ, le Seigneur, le Sauveur qui vient de naître. À ceci que vous allez le reconnaître. Un nouveau-né, déjà c'est bizarre, emmailloté et couché dans une crèche. Vous voyez le contraste ? C'est un ange terrifiant qui annonce une condition misérable pour la venue, la naissance du Messie. Et ensuite, cette annonce est confirmée par un concert majestueux auquel se joint une multitude. Une multitude, on ne sait pas combien c'est, mais une multitude, c'est beaucoup. De ces monstres terrifiants que sont les anges. Mais quand je dis que ce sont des monstres, ce n'est pas vraiment des monstres, mais ils font peur parce qu'ils sont une manifestation glorieuse de la gloire de Dieu, des reflets presque de la gloire de Dieu. Ça fait peur. Ça fait peur. Et ils chantent au verset 13 et 14, hein, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agrèrent. » Quel contraste entre cette multitude d'anges qui chantent la gloire de Dieu et la naissance du Messie, et puis la condition en fait du Messie. Ce petit bébé emmailloté, couché dans une mangeoire, sur la paille. Vous voyez le contraste entre d'un côté la nature de l'événement, la venue des anges, les annonces solennelles, et puis de l'autre, les circonstances de l'événement. La naissance dans une étable, au milieu de la nuit, dans une petite ville de la banlieue de Jérusalem. Imaginez qu'un jour, vous êtes en train de vous promener à Vénissieux, par exemple, Vénissieux, la banlieue lyonnaise, lorsque soudain, vous promenez tranquillement, et soudain, vous entendez au loin le son d'un hélicoptère. Ah non ! Plusieurs hélicoptères qui s'approchent, et ensuite, vous voyez apparaître... Vous vous retournez, vous voyez apparaître au bout du boulevard tout un cortège de voitures blindées avec des gyrophares allumés, des gendarmes, des policiers, des pompiers. Et puis là, vous entendez quelqu'un qui prend la parole à l'aide d'un mégaphone. D'accord ? Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tous les Français. Aujourd'hui, dans le pays d'Henri IV, de Napoléon et du général de Gaulle, il vous est né un sauveur. Un héros dont l'autorité est suprême et bienveillante et dont vous attendiez, chers Français, la venue depuis des millénaires. Tout ça au mégaphone, avec les hélicoptères, les voitures, les gyrophares, les sirènes. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né blotti contre sa maman sur le quai de la station de métro Laurent Bonnevet. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à la clinique des Minguettes. Vous voyez le contraste ? Vous voyez ce qui est bizarre, ce qui est étrange ? La venue de Jésus, c'est la venue d'un VIP. Et pour cause, hein ? C'est la venue du Christ, du Sauveur, du Seigneur. C'est la venue de l'Emmanuel, Dieu, avec nous. C'est Dieu qui s'approche de sa création en Jésus. C'est pas rien. Mais pour s'approcher de sa création... Il s'est fait petit enfant. La parole éternelle qui était avec Dieu depuis toujours, qui a créé, s'est faite chair. Lui, dont la condition était celle de Dieu, s'est dépouillé lui-même. Il est arrivé dans des conditions misérables, à tel point que l'apôtre Paul dit qu'il a pris la condition d'un esclave. D'un esclave. Et pourquoi ? Pourquoi il n'est pas venu dans la gloire, sous les acclamations du monde entier ? Pourquoi pas ? Eh bien, la Bible nous dit pourquoi. C'est parce qu'il est venu précisément pour souffrir. L'apôtre Paul dit ceci, « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Vous voyez ? c'est pour la croix que Jésus est venu. C'est pour la croix que le Messie est né. C'est pour la croix que Dieu s'est approché de sa création. Et en souffrant et en mourant sur la croix, Jésus, le Fils éternel de Dieu, innocent et parfait qu'il était, a pris sur lui le jugement de Dieu destiné à une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants. Et il a pris ça sur lui pour les en délivrer, ces hommes, ces femmes et ces enfants. Mais c'est pas tout. Le troisième jour, nous dit l'Écriture, Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau en vainqueur de la mort et du mal. La tête du serpent, dont il a été question depuis les premières pages de la Genèse, a effectivement été écrasée par la descendance promise. Et de sorte qu'aujourd'hui, vous et moi, aujourd'hui, si nous plaçons notre confiance en Jésus, nous pouvons recevoir le pardon complet de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Nous pouvons être définitivement réconciliés avec Dieu. Nous pouvons obtenir l'assurance de vivre éternellement avec lui si nous plaçons notre confiance en Jésus. Vous voyez donc que Luc veut nous faire mesurer combien la naissance de Jésus est un heureux événement au sens le plus fort du terme, en nous montrant donc, dans ce deuxième temps, dans quelles conditions d'humiliation le Seigneur et Sauveur s'est approché des hommes. Il est venu pour la croix. Et enfin, troisièmement et dernièrement, Luc veut nous toucher toujours au travers du récit de la naissance de Jésus en nous montrant avec quelle émotion et quel enthousiasme les premiers témoins ont reçu la nouvelle de sa naissance. Et c'est ce qu'on voit versets 15 à 20, qui sont comme la conclusion de cet épisode, et où Luc nous raconte le comportement des tout premiers croyants qui apprennent la naissance du Messie. Comment les bergers, parce que c'est d'eux dont il s'agit, comment réagissent-ils après l'annonce qui leur a été faite par les anges? Vous avez remarqué, on l'a lu tout à l'heure. Ils n'hésitent pas une seule seconde. Ils se fient à la parole du Seigneur et se rendent en hâte auprès de Jésus. Et ensuite, le texte nous dit qu'ils vont raconter à tout le monde ce qu'ils ont vu et entendu, et ils repartent en glorifiant et en louant Dieu. Et un petit verset, verset 19, nous précise aussi quelle est l'attitude de Marie qui, elle, est profondément touchée. Elle est pratiquement obsédée, si j'ose dire, par ce qui s'est passé. Elle le ressasse sans cesse dans ses pensées, dans son cœur. Elle est profondément touchée, peut-être bouleversée par cette naissance. Et les bergers, et même Marie, sont présentés ici comme des exemples pour nous. Voilà comment nous aussi, nous devrions réagir à l'annonce de la naissance du Messie. Voilà l'attitude qui devrait être la nôtre, finalement, à Noël, en particulier, puisqu'il s'agit de la commémoration de la naissance de Jésus. On devrait être caractérisé, en tant que croyant, par une grande joie à ce sujet, beaucoup d'enthousiasme, une profonde appréciation pour la venue de Jésus. Quoi de plus normal, finalement? Parce que c'est pas comme ça qu'on réagit, habituellement, quand il y a une naissance dans notre entourage, joie, enthousiasme, appréciation, c'est pas vrai? On le fait naturellement pour les gens qui naissent dans notre entourage. Imaginez un instant que vos meilleurs amis sont à l'hôpital en train d'avoir un enfant. D'accord? Vos meilleurs amis sont à l'hôpital en train d'avoir leur enfant. Mais vous, vous y pensez pas tant que ça, finalement. Vous avez autre chose à faire. Puis vers la fin de la journée, le téléphone sonne. Eh oui. Mais mince, alors vous ne vous dépêchez pas de décrocher, et vous ratez l'appel. Un peu plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Vous ratez de nouveau l'appel. Flûte, j'étais encore occupé à faire la vaisselle. Un peu plus tard, le téléphone sonne de nouveau et vous finissez par décrocher. Allô, c'est nous. C'est un petit garçon, il s'appelle Fernand. Il est tout beau, tout propre, il est magnifique. Tout s'est bien passé, on est trop contents. Ah bon? Ok. Sinon, j'étais sur le point de regarder un film. On pourrait en reparler peut-être demain. C'est drôle, mais c'est tragique en même temps. Pourquoi c'est tragique? Parce que c'est souvent notre attitude vis-à-vis du Seigneur, non? Notamment à Noël. Allô? après des siècles et des siècles d'attente et par la providence de Dieu qui gouverne tout selon son plan bienveillant pour les hommes, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Ah bon ? Ok. Sinon là, j'étais sur le point de partir en vacances, on pourra en discuter après. J'étais sur le point d'ouvrir mes cadeaux et de manger un bon repas, on pourrait en reparler peut-être demain. Vous voyez notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Franchement, comment est-ce qu'on peut verser une petite larme à la naissance de notre neveu et pas être profondément bouleversé par la venue dans notre monde du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ? Puissions-nous aussi avoir ce comportement de croyant, comme les bergers, n'est-ce pas ? Joie, enthousiasme, appréciation profonde. Mais est-ce que Jésus est Seigneur et Sauveur pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous lui faites confiance aujourd'hui ? Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il n'y a personne d'autre pour vous pardonner, pour vous sauver de vos péchés ? Est-ce que vous accueillez chaque jour, chaque matin, avec reconnaissance son autorité dans votre vie ? Est-ce que vous avez le désir de le connaître, de mieux le connaître et de lui appartenir pour toujours ? Vous savez, vous n'avez rien à payer pour ça. Rien à payer pour ça. Et aujourd'hui même, vous pouvez tout simplement vous incliner devant lui intérieurement et renoncer à vivre pour vous-même et par vous-même et le laisser lui prendre les rênes de votre vie. Et vous savez quoi ? Il le fera. Et il le fera pour votre plus grand bonheur. C'est ça la foi, c'est lui faire confiance. Donc vous voyez, pour récapituler, que Luc a voulu nous faire mesurer combien la naissance de Jésus était un événement, un heureux événement, pardon, au sens le plus fort du terme. Au sens le plus fort du terme. D'abord, en nous montrant par quels moyens providentiels Jésus est né à Bethléem, conformément à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Ensuite, en nous montrant dans quelles conditions d'humiliation misérable le Seigneur et Sauveur s'est approché des hommes. Et enfin, troisièmement, comme on vient de le voir, en nous montrant avec quelle émotion ou quel enthousiasme les premiers témoins ont reçu la nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement ? Ça veut dire par exemple que si nous voulons fêter Noël, c'est un peu trop tard pour cette année, ça sera pour l'année prochaine cette application, si vous voulez fêter Noël l'année prochaine, vous devrez le faire. Non pas en raison des cadeaux, non pas en raison des réunions de famille, des repas, des bons repas, non pas en raison du sapin, ou des décorations, ou des chocolats, et non pas en raison de la musique traditionnelle, tout ce folklore. Non, pas à cause de ça. Vous devrez fêter Noël en raison du sens de la venue du Messie. En raison de la raison de sa venue. Une venue qui satisfait une attente millénaire. Toute l'attente de l'Ancien Testament. Ça veut aussi dire pour nous que nous devons nous humilier devant l'humiliation du Fils de Dieu. Nous devons nous humilier devant l'humiliation du Fils de Dieu. Dieu s'est fait petit bébé. Il s'est fait même plus petit qu'un petit bébé. Il s'est fait quelques cellules dans le ventre, dans un utérus. Il a dormi sur la paille, dans une mangeoire. Il est venu dans ces conditions misérables, précisément dans le but de souffrir. Et ses souffrances ont atteint leur comble sur la croix. Voilà qui devrait corriger notre orgueil, non ? Et enfin, si la naissance de Jésus est une heureuse nouvelle, au sens le plus fort du terme, ça sous-entend qu'on devrait la partager, non ? Comme toute heureuse nouvelle, c'est le sens d'ailleurs du mot « évangile » en grec « bonne nouvelle ». Puissions-nous donc en cette nouvelle année qui s'annonce pour bientôt, puissions-nous donc ressembler davantage à ces bergers dans leur joie, dans leur reconnaissance, dans leur enthousiasme, et qui racontent autour d'eux, comme il est dit au verset 17, ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons humblement devant toi dans l'adoration, et nous souhaitons te dire notre reconnaissance profonde pour la venue de Jésus ton Fils. Nous reconnaissons ce soir la raison de sa venue, qui était de nous délivrer de nos péchés par ses souffrances à lui. Aide-nous, Seigneur, à avoir un peu plus de gratitude pour cela, un peu plus de joie, un peu plus d'enthousiasme et un peu plus de zèle à en parler autour de nous. Amen.